détracteurs de la Bible disent souvent que cette dernière parle de l'ordre que Dieu aurait donné à Abraham de lui offrir son fils sur le feu d'un autel. On va même jusqu'à prétendre que ce récit milite en faveur des sacrifices humains, chose horrible entre toutes. Il faut dire que même les chrétiens se demandent parfois pourquoi l'Éternel exige d'un homme qu'il assassine son fils tant aimé. Partons avant tout de l'idée maîtresse suivante. Dieu n'a jamais ordonné à Abraham de tuer Isaac. C'est ce que l'on pense en général, mais rien n'est plus faux. En Genèse 22, 2, il est dit exactement « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » La racine grecque du mot holocauste est « holos » tout et « caïn » brûlé. Dieu ordonne donc à Abraham de lui brûler son fils. Il devait donc l'allonger sur un autel et en tant que sacrifice entier, total. Cependant, Abraham ignorait si, une fois tous les préparatifs accomplis, l'Éternel n'allait pas lui demander de les poursuivre en tuant son fils. En fait, ce que Dieu lui avait commandé était de faire monter son fils sur l'autel, prêt à être tué et brûlé, s'il l'exigeait. Mais Dieu l'a-t-il fait? Le récit biblique montre que non. Que du contraire. L'ange de l'Éternel, il a dit, l'appela dessus et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » En toute logique, on doit admettre que l'ordre divin n'était pas de tuer Isaac, mais plutôt de lui offrir un holocauste. Abraham s'exécuta, et l'Épître aux Hébreux dira des dizaines de siècles plus tard, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Le père n'avait cependant pas tué le fils, car cela, Dieu ne lui avait pas ordonné. Le récit biblique ne donne à aucun moment l'impression que Dieu, après avoir demandé à Abraham de tuer Isaac, puis de le brûler, et voyant qu'il était prêt à s'exécuter, de changer d'avis pour remplacer cet holocauste par celui d'un bélier retenu dans un buisson par les cornes, dit la Bible. Parfois, lors d'une lecture de l'Ancien Testament, l'esprit humain bute sur certains épisodes tels que celui où Dieu décide l'extermination de certains peuples et de n'épargner ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. En Deutéronome, chapitre 20, versets 16 et 17, il est bien dit « Dans les villes de ces peuples dont l'Éternel pour Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Éthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéniciens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel pour Dieu te l'a ordonné. D'autres villes, par contre, devaient être épargnées et la paix accordée à tous ses habitants. » S'il désirait malgré tout la guerre, on ne pouvait tuer que les hommes. Il s'agissait là de cités éloignées. Mais les habitants de celles où allaient vivre les Israélites devaient être passés au fil de l'épée. Combien de fois n'ai-je pas entendu dire « Comment peut-on concilier l'amour de Dieu avec ce que les pages de l'Ancien Testament contiennent, c'est-à-dire tous ces massacres ordonnés par ce même Dieu ?» Que faut-il répondre? Premièrement, il est absolument épouvantable de penser à tous ces gens, non seulement les guerriers, mais les vieillards, femmes et enfants, tués systématiquement. Toutefois, il existe quelque chose de plus horrible encore lorsqu'on se met à réfléchir à la question. C'est le fait que l'iniquité d'un peuple quelconque puisse atteindre par sa rébellion contre Dieu un tel niveau de corruption morale, touchant jusqu'aux enfants en bas âge une bassesse aussi absolue, aussi contagieuse, qu'une mesure radicale devient indispensable dans l'intérêt même du reste de l'humanité. La Bible ne constitue pas l'unique source d'information à ce sujet. Des historiens et des simples écrivains contemporains à cette époque nous décrivent également les profondeurs insondables de la pollution morale dans laquelle ces nations étaient tombées. Tout cela touchait à l'abject et représentait un cancer moral menaçant la vie de l'humanité tout entière. Comme une tumeur maligne, chaque fibre devait être extirpée en vue de sauver le reste du corps. La chose la plus charitable que Dieu pouvait faire était de tailler dans le vif et arracher le chancre qui aurait infecté ces créatures. Deuxièmement, disons que Dieu est meilleur juge que nous en ce qui concerne les mesures à prendre envers les individus et nation noyée dans la fange du péché. Il est doté d'une patience que l'on pourrait croire sans limite lorsqu'on constate avec quelle mansuétude il exerce son jugement sur les êtres. Il faut d'une part considérer l'étendue de sa sainteté et être réaliste d'autre part. Il faut comprendre et voir le degré de convoitise, d'intérêt, de désir lassif, de vilenie, de manque de respect total pour la loi et pour Dieu qui avait envahi certaines villes et les occupe même de nos jours pour réagir et arriver à se dire « Mais pourquoi Dieu ne les raye-t-il pas de la surface du globe comme il a ordonné aux Israélites de faire disparaître les Cananéens ?» Cet ordre était guidé par une immense miséricorde et par l'amour. S'ils n'avaient pas agi ainsi, les Israélites se seraient également corrompus et auraient dû être exterminés à leur tour. Le fait est que les Israélites furent malgré tout contaminés par le péché, pour la simple raison qu'à une certaine époque, ils s'arrêtaient d'obéir au décret divin dans leur entièreté. Mais, dira-t-on, pourquoi Dieu n'aurait pu épargner au moins les femmes? La réponse est très simple. Les femmes étaient la source principale de contamination. Il est vrai que les femmes ont en général une attitude plus noble que les hommes fidèles, mais lorsqu'elles sont dépravées, elles sont plus dangereuses encore que les hommes les plus corrompus et les enfants. Eux, au moins, auraient pu être sauvés. Les personnes qui ont l'expérience des enfants, ayant vécu dans des milieux moralement malsains, savent toutes combien le vice engendré durant plusieurs générations réapparaissent chez eux. Cela arrive même lorsque les enfants ont été éloignés de leur mauvais milieu et élevés dans un environnement plus favorable. Par la puissance régénératrice de l'Évangile, tout cela peut être corrigé. Mais n'oublions pas que les événements qui nous occupent se déroulaient bien des siècles avant la venue de Jésus. Troisièmement, les desseins de l'Éternel sont toujours bénéfiques à l'homme. Il leur faut parfois des siècles pour s'accomplir, car ils se situent pour nous à la fois dans le passé, le présent et le futur. Ah, si seulement nous pouvions apprendre que Dieu est infini alors que nous sommes infinitésimaux. Qu'en matière de nécessité scientifique et philosophique, ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Il n'est de plus grand sot qu'un enfant critiquant un philosophe et un philosophe critiquant Dieu. Quatrièmement, l'extermination des enfants cananéens était un acte de miséricorde et d'amour également, non seulement envers le monde extérieur, mais également pour eux-mêmes. Que leur serait-il advenu s'il leur avait été permis de vivre? Leur sort aurait été de loin pire que la mort, alors que maintenant ils sont sauvés. Il est normal que nous n'abordions jamais ce genre de problème sous cet angle, car nous envisageons trop souvent les choses sous leur aspect purement matériel. À plusieurs reprises, il est fait mention dans la Bible de ce que Dieu endurcit le cœur du Pharaon. Et on se demande souvent pourquoi. Il est même affirmé par des incroyants qu'il s'agit précisément de la raison pour laquelle le souverain se rebella contre l'Éternel. Par conséquent, Dieu serait directement responsable du péché du Pharaon et l'aurait puni injustement. En Exode, chapitre 4, verset 21, on peut lire ceci. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant le Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. » La lecture de ce passage semble en effet imputer une mauvaise action à Dieu. Mais un examen attentif de ce que dit exactement la Bible et par conséquent l'Éternel, ainsi que les circonstances au cours desquelles cela a été affirmé, est propre à faire s'évanouir la difficulté première. Si Dieu choisissait un homme réellement désireux de connaître et d'accomplir sa divine volonté pour ensuite endurcir son cœur afin de le pousser à ne pas l'exécuter, on serait en droit de se dire qu'il s'agit là, en effet, d'une chose difficile, voire impossible, à justifier chez le Créateur. Mais lorsque nous prenons connaissance, toujours par la Bible, des efforts déployés par Dieu et dans les circonstances où elles se sont déroulées, le tableau change diamétralement. Toute l'histoire débute non avec un pharaon dont le cœur est endurci au préalable, mais avec un être qui le fait de lui-même. Et de quelle manière? Exode Exode 4, 21, est en réalité une prophétie de ce que Dieu ferait au souverain d'Égypte. Prophétie que Dieu révèle tout en sachant qu'il faut bien à l'avance quelles seront les réactions de cet homme avant qu'il ne lui endurcisse le cœur. Et là est la question. En Exode chapitre 5, versets 1 et 2, il nous est dit que Moïse et Aaron se présentèrent devant le pharaon porteur du message suivant. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il s'agit donc d'un rejet définitif, d'un défi orgueilleux montrant sans équivoque qu'il se refuse à reconnaître et à obéir à Dieu. Tout ceci se passe avant que l'Éternel ne décide quoi que ce soit à son sujet. Ensuite vient la longue description d'une oppression encore accrue, des sévices, de la cruauté dont va faire preuve le pharaon envers ses esclaves israélites. Il se durcit donc lui-même le cœur. Exode 7, 10. Et les versets suivants voient Moïse et Aaron se présenter à nouveau devant le pharaon et déployer un ensemble de prodiges incroyables, démontrant de façon indéniable qu'ils se trouvent en face des envoyés de l'Éternel. Mais ils se refusent à tout dialogue, à toute obéissance. Dans le 13e verset, on lit que le cœur de Pharaon s'endurcit. Mais rien ne dit qu'il s'agit là d'une action prise par Dieu. Les faits sont les suivants. Le pharaon est un tyran, un oppresseur cruel, qui maintient Israël en esclavage, les maltraite, les met à mort pour un rien. Et la Bible dit, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Il envoie là-bas ses représentants pour délivrer son peuple, mais le pharaon s'y refuse, le défie, en accroissant encore les cruautés. Et c'est alors, et alors seulement, que Dieu endurcit son cœur. Tout ceci est parfaitement conforme à la méthode universelle utilisée par Dieu vis-à-vis des hommes. S'ils choisissent l'erreur, il les y livre non sans avoir essayé de les dissuader. Si leur cœur obstiné opte pour le péché, que peut faire Dieu sinon les laisser se livrer, se lier au péché? Traitement sévère, mais juste. J'espère avoir suscité en vous, sinon du respect pour la parole de Dieu, au moins une sorte de curiosité qui vous poussera à vous en approcher. En la lisant, en la méditant, je puis vous aider si vous le désirez.